On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. Il est 11h10, 11h12. Allez, on a 2 minutes de retard, c'est pas très grave. C'est l'invité de 11h et quelques sur Radio BLV, comme tous les mardis et tous les jeudis. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Delphine Delaunay, directrice générale de la Fondation Rovaltin. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Et Manon Bouvard, géologue de formation chargée d'enquête. Projet particulier à la Fondation Rovaltin dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Manon.
Bonjour.
Manon. Je me mélange un petit peu les pédales parce qu'effectivement, entre les différents intervenants sur ce projet et les différentes structures, etc., il faut juste se remettre dans les bons rails. Avant de démarrer sur le projet, alors ce projet, ça s'appelle La Clé du Sol. C'est un projet de science citoyenne d'étude de la qualité des sols chez les jardiniers amateurs à Mours-Saint-Eusèbe. Moi, quand j'ai reçu le communiqué de presse, j'ai dit, mais c'est un truc génial, ce truc-là. Voilà, c'est une belle idée que de faire participer les jardiniers amateurs, c'est-à-dire nous, citoyens et citoyennes. Hein, et parce que prendre conscience de la qualité du sol, c'est prendre conscience de ce que ça veut dire que la vie, et quand on parle on parle beaucoup d'environnement, etc., c'est vraiment, on va dire que c'est assez fondamental. Alors, avant d'aller découvrir ce beau projet, il y a un rituel dans Avec ou sans sucre, c'est que les invités nous présentent un petit peu leur parcours personnel. Et alors moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, effectivement, parce que c'est à l'heure où on parle beaucoup de féminisme et on parle beaucoup d'égalité homme-femme, je suis assez contente d'avoir deux femmes scientifiques qui sont là, parce que souvent, on a une image assez sexiste et assez masculine du monde scientifique, et il y a sûrement des raisons pour lesquelles on a cette image, mais en tous les cas, ça évolue sacrément. Alors, Delphine, on commence par toi, directrice générale de la Fondation Rovaltin. D'abord, c'est assez récent, puisque avant, c'était Wilfried Sanchez.
C'est mon anniversaire. Enfin, c'était mon anniversaire il y a 15 jours. Voilà.
Alors, bon anniversaire.
Merci. C'était la fin de la première année.
Et toi, quelle est ta formation, comment on arrive à atterrir à ce poste-là et avec tout ce que ça veut dire de responsabilité à bien des égards, on va dire.
Mm-hmm. Ben, c'est sûr que c'est un métier très divers, qui fait appel à beaucoup de qualités, où on rencontre aussi, qui est très riche, qu'on rencontre beaucoup de personnes différentes. Alors, comment on y arrive? Je ne sais pas trop. Il y a plusieurs voies, j'imagine. Après, je ne sais pas combien de temps on a, mais en fait, à la base, moi, je suis chercheure en neurosciences et j'ai vraiment un parcours neuroscientifique. Donc, moi, j'ai un parcours assez long dans les neurosciences parce que les neurosciences, c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. Ça a commencé à la fac de bio. Bon, on va peut-être pas remonter à quand j'étais petite avec le microscope et tout ça.
Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est toujours intéressant parce que souvent, on se rend compte que dans l'enfance, il y a les graines déjà, hein, quand même.
Oui, je crois. Alors après, j'étais un peu, on va dire, pas une naturelle, mais si, pour moi, c'était la biologie, c'était assez simple. Mm-hmm. Bon, il y a d'autres matières qui étaient plus complexes, hein, les maths, par exemple, et tout ça. Mais la biologie, c'était simple et j'aimais beaucoup, surtout aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur des choses. Vraiment regarder dans les détails, mettre entre l'âme et la mêle, et puis aller vraiment dans la profondeur des choses. Voilà. Donc, je décide de faire un parcours en neurosciences, et pour ça, en fait, moi, je suis bretonne à l'origine. Donc, je vais sur Paris. Je vais sur Paris, où là, ils donnent effectivement des enseignements de neurosciences à la fac. Et puis, je suis prise à Paris, donc je suis très contente, et puis j'enchaîne. Maintenant, on appellerait ça une licence, un master 1. Et puis, bah, mes notes s'envolent. Donc, ça, c'est très agréable aussi. Et puis, la vie parisienne me plaît énormément. Donc, voilà. Et puis, ensuite, je décide de... Voilà, je suis prise, surtout en DEA neuropharmacologie à l'École normale supérieure, rue d'Ulm. Ça, c'est quelque chose, voilà, auquel je suis très fière, parce que c'est un très beau DEA qui est, à l'époque, dirigé par M. Alain Prochian, qui est un chercheur de renommée internationale en neurosciences. Et puis, j'ai un stage, je me rappelle très bien le jour où mon maître de stage m'appelle chez moi au téléphone. Voilà, j'obtiens un stage à la Pitié-Salpêtrière chez M. Borizalc, voilà, sur les oligodendrocytes. Et donc, je démarre ma thèse sur les oligodendrocytes. Alors, les oligodendrocytes, oui. Qu'est-ce que c'est?
Donc, non, en on fait, est tous perdus.
Voilà, donc dans le cerveau, vous avez plusieurs types de cellules. Vous avez les neurones, ça, tout le monde connaît les neurones qui transmettent l'influx nerveux. Et puis, vous avez également les cellules gliales, donc les oligodendrocytes notamment, et les astrocytes. Et les oligodendrocytes, en fait, ce sont les cellules qui servent de gaines, qui entourent d'une gaine les axones des neurones pour pouvoir permettre la transmission rapide de l'influx nerveux. Donc, c'est ça qui nous permet, en fait, d'avoir un influx rapide entre le cerveau et notre petit doigt de pied, par exemple.
D'accord. Oui, voilà. Donc, ils ont une importance, une grande importance, comme chaque...
Tout à fait. Et puis, en termes de maladies, par exemple, ce sont les oligodendrocytes qui sont en cause et qui dégénèrent lors des scléroses en plaques, par exemple.
D'accord, voilà. Donc recherche d'autant plus importante.
Voilà, et puis je suis passionnée, je commence sur l'origine des oligodendrocytes, parce qu'à ce moment-là, à l'époque, donc, ce que je trouve aussi vraiment très intéressant et passionnant, c'est qu'on est vraiment à la limite des connaissances en neurosciences à ce moment-là, donc je suis vraiment dans la découverte.
Eh oui.
Donc on parle vraiment de choses qu'on ne connaît pas, là c'est vraiment la recherche fondamentale pure. Et puis on découvre en fait que les oligodendrocytes sont ce qu'on appelle spécifiés, c'est-à-dire qu'on a déjà, au cours du développement du cerveau, des cellules qui vont donner plus tard les oligodendrocytes, mais qui sont déjà très très tôt au cours du développement déterminées à donner des oligodendrocytes. Et ça, c'était voilà, une grande nouveauté à l'époque, puisqu'on pensait que les oligodendrocytes n'apparaissaient que plus tard, après la naissance.
D'accord. Voilà.
Donc, je travaille sur ces sujets, c'est passionnant. Et puis, je termine ma thèse.
Les yeux qui brillent, c'est...
Oui, c'est vrai, je termine ma thèse. Et puis là, par contre, il y a un petit... J'ai mon fils aussi. Puis là, il y a un petit, peut-être, un petit moment où je me pose quelques questions. Parce que finalement, j'aime ce que je fais, j'aime la recherche en elle-même. Mais l'environnement, il y a énormément d'ego. Et puis, j'ai l'impression que finalement, je n'arrive pas à m'épanouir au sens où on me demande beaucoup de choses. Mais moi, je voudrais avoir le temps. Je voudrais avoir le temps de travailler sur ce que je veux. Et donc, je me pose pas mal de questions. Et puis finalement, en discutant avec des enseignants de Paris 6, ils me conseillent d'aller voir ailleurs comment se passe la recherche. Et donc, je pars aux États-Unis pour faire un post-doc à UCSD à San Diego. Voilà. Donc là-bas, j'enchaîne sur à nouveau une recherche sur le cerveau. Et puis, je vais peut-être aller vite. Non, je reviens sur Lyon, où je développe mes propres recherches, en fait, sur...
Et juste une petite parenthèse. Est-ce que tu as trouvé, tu disais, voilà, l'environnement avec beaucoup d'ego, avec... Enfin, est-ce que tu as trouvé une différence en partant à San Diego?
Alors, j'ai trouvé que le travail à San Diego était très facile, en fait, en Californie. La qualité de vie est exceptionnelle. Mmh. Et donc, on travaille beaucoup, mais on travaille de façon très détendue. On fait beaucoup d'heures, mais sans vraiment s'en rendre compte. Et effectivement, j'ai trouvé que le travail là-bas, pour moi, en tout cas, me correspondait mieux.
Ouais. D'accord. Oui. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut effectivement travailler. On peut dire qu'il y a plus d'heures, certes, mais si, oui. Si le travail est plus agréable et plus confortable, les heures, elles ne se sentent pas de la même manière.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ça, c'est vrai.
Alors, je t'ai coupé, excuse-moi.
Donc, non,
tu
mais pas
sur
grave.
Lyon.
Donc, je reviens, voilà. Et puis, j'enchaîne. Je suis recrutée dans un laboratoire où je développe mes propres projets de recherche, notamment sur, à nouveau, l'origine des neurones et des cellules gliales dans le cerveau. Je découvre une nouvelle façon dont les cellules se divisent en ce qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire physiquement comment un progéniteur va donner deux cellules différentes. Voilà, donc on travaille sur ces sujets. On travaille également sur la migration des neurones. On découvre des nouveaux modes de migration de neurones. Et puis, il y a une forme de, je dirais peut-être de, pas d'habituation, mais de fatigue un petit peu. On a vraiment la pression de la publication. Il faut aller beaucoup dans les détails, énormément dans les détails. Dès qu'on trouve quelque chose, il faut vraiment l'encadrer et en trouver de toutes les facettes. Et finalement, j'ai l'impression de plus vraiment faire de la recherche, mais de faire de la publication quelque part. Et de perdre un petit peu, voilà. cette liberté qu'on
parce que la recherche n'existe pas sans publication.
Non, là, c'est vraiment, on a besoin de publier. C'est-à-dire qu'on n'en est plus, on fait de la recherche. Au départ, la publication, c'est quand même pour présenter ses recherches à la communauté scientifique et également à la communauté citoyenne. Et là, ça devient plutôt, on fait de la recherche pour publier. Donc, ce n'est pas partout le cas, heureusement, maintenant. Mais quand même, on a cette forme de pression. Ouais. Donc, on perd cette liberté du chercheur, et la vertu première de la publication. Et puis, voilà. Puis, j'ai d'autres envies. J'ai envie de rencontrer d'autres gens. J'ai envie de promouvoir le milieu de la recherche aussi, parce que je trouve que c'est important. Et puis, d'élargir un petit peu mes horizons.
Très bien. Et voilà comment on sort du coup du laboratoire.
Voilà. Et puis on y reste quand même un peu parce que je voulais quand même continuer à faire quelque chose qui reste dans le domaine de la recherche parce que j'aime beaucoup les chercheurs et puis j'avais envie de les accompagner. Et puis je suis tombée sur cette offre, ce recrutement à la Fondation et je me suis dit que ça correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire.
Super, magnifique parcours en tous les cas, parce que c'est, il faut le dire, on a appris plein de choses, on retiendra peut-être pas tout, c'est pas forcément à cause de nos neurones, mais en tous les cas, mais ça pourra faire par contre l'objet effectivement d'autres émissions que d'aller plus loin dans ces recherches. Manon, toi. Je mélange, ça y est. C'est le jour. Il y a des jours comme ça où ça dérape tout le temps. Ça va être un jour comme ça. Manon, toi, tu es, je disais, en te présentant que tu étais géologue de formation. Et puis, donc, travaillant pour chargé de projet donc, auprès de la Fondation Rovaltin. C'est quoi ton parcours à toi ? T'étais pareil quand t'étais petite, toi tu grattais la terre.
Moi j'ai toujours été intéressée par effectivement la nature. J'étais très observatrice, mais j'ai grandi en région parisienne, on n'avait pas de jardin.
Ah c'est plus compliqué.
Alors je regardais un peu quand on sortait, mais après j'avais pas un réel accès. Mais j'ai quand même su toujours que j'allais me diriger sûrement vers ça. Alors comment c'est un peu la question. Et puis finalement. Après le bac, je suis partie en prépa bio. Là, je me suis dit, oh non, c'est du bourrage de crâne, je ne peux pas continuer, c'est pas possible. Et là, je pars à la fac, faire une essence justement de bio qui va s'orienter vers la géologie ensuite. Mm-hmm. Donc, je découvre un peu un monde où on apprend plein de connaissances, où on peut discuter avec nos enseignants, très ouvert. On part aussi sur le terrain et ça, c'est vraiment un des gros avantages de la géologie, c'est qu'on on applique en fait ce qu'on fait, on peut... J'ai dit visiter toute la France comme ça, ça fait vraiment du sens, c'était très intéressant. En même temps, j'ai découvert la vie, tout ce qui est la vie associative en étant dans une épicerie solidaire, en travaillant pour l'association des géologues justement de Paris Sud. Donc j'ai développé non seulement une certaine vision scientifique, mais en plus une envie de partage, de communication comme ça. Et ensuite, j'ai fini ma licence par un stage à l'ENS, l'École normale supérieure au laboratoire de géosciences, c'était un premier stage de pédologie, donc première approche des sols comme maintenant, avec trois chercheurs qui m'a beaucoup plu. Et après, j'ai enchaîné en master avec un master en Allemagne, en fait. À Berlin, j'ai commencé en Erasmus et puis je suis restée finalement.
À vivre Erasmus quand même,
définitivement.
Il faut le redire, c'est bien.
Ouais, donc j'ai continué à tomber amoureuse des rencontres, de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux points de vue. Ça m'a beaucoup plu et je suis quand même retournée faire un dernier stage à l'ENS. Donc j'ai pu garder les contacts avec mes profs. Et à la fin de tout ça, je me suis dit, j'aime beaucoup la science, mais j'aimerais bien faire quelque chose un peu différent. Là, pendant un an, garder une petite parenthèse peut-être par rapport à ma future vie professionnelle et m'accorder quelque chose de nouveau. Et je suis partie en Roumanie pendant un an faire du volontariat dans un Emmaüs là-bas, avec des jeunes qui sortaient souvent du système de protection de l'enfance. Alors là, c'était pas de science, pas beaucoup de travail intellectuel, on accompagnait des gens, c'était beaucoup dans le social, beaucoup dans l'action, etc. Et ça m'a plu aussi, mais au bout d'un an, l'envie de science est vite revenue. Et je me posais un peu la question, maintenant, comment je vais faire pour allier science, géologie et communication, échange et tout ça. Et alors là, je suis retournée à l'ENS et j'ai discuté avec un de mes anciens un des anciens maîtres de stage, Loric Cécillon, qui fait partie du comité scientifique en collaboration avec la Fondation Rovaltin. Mmh. Et là, il m'a parlé d'un poste qui s'ouvrait à la Fondation et qui pourrait plutôt bien correspondre à ce profil. Et il me disait que c'est dans le sud, c'était à Valence. Et alors là, ça a fait tilt parce que mon grand-père, en fait, est maraîcher à Valence. Donc, je descends d'une famille de maraîchers.
La vie est incroyable. C'est un peu
un retour aux sources de faire un projet sur les sols dans la région de Valence. Donc, je ne pouvais pas vraiment louper l'occasion, là. Voilà.
Ah, c'est une jolie, c'est une jolie chute en tous les cas. Ouais. Parce que encore une fois, la vie ne cesse de m'épater pour ça. Elle nous fait des clins d'œil souvent. À nous de les attraper. Par contre, je vous propose, mesdames, d'abord merci de nous avoir partagé ces bouts de ce résumé de vie un petit peu. C'est toujours intéressant de voir comment on arrive aux choses et comment par quelle route on prend et les rencontres. J'ai bien noté ce terme de rencontre qui était important pour toi, pour toi Manon, mais pour Delphine aussi, parce que c'est qu'il y a un moment où besoin aussi de se confronter à l'humain.
Mm-hmm. Tout à fait.
Peut-être pour retrouver du sens aussi à ce qu'on fait, tout simplement. Oui. Parce que quand on est dans la recherche, quand on est le nez... quel que soit le métier d'ailleurs, mais quand on est un peu le nez dans le guidon, on finit par perdre parfois l'objectif finalement de tout ça qui est quand même effectivement l'humain et le vivant, on va dire, au sens le plus large en ce qui te concerne.
Oui, tout à fait. Et puis c'est ce qu'on essaye de faire avec la Fondation également, c'est-à-dire d'amener le chercheur vers le citoyen et le citoyen vers le chercheur pour qu'il y ait vraiment une relation entre les deux.
Ouais. Voilà, donc ce ne sont pas des êtres particuliers, des professeurs Nimbus, elles sont tout à fait accessibles et humaines. Je vous propose de faire une petite respiration musicale. On va écouter Guillaume Perret, Certain Trip. C'est un extrait de son nouvel album qui va sortir en avril et on se retrouve tout de suite après. We'll be right back. Guillaume Perret, A Certain Trip, extrait de l'album éponyme qui sortira le 24 avril. Vous écoutez Radio BLV 93.6, vous êtes bien installé dans l'invité de 11h et quelques. Et aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes avec Delphine Delaunay, directrice générale de la Fondation Rovaltin, et Manon Bouvard, chargée de projet pour la Fondation Rovaltin, et qui nous disait tout à l'heure qu'elle avait pris grand plaisir durant ses études à pouvoir aller sur le terrain, c'est-à-dire sortir aussi un peu des amphis et aller mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu cette expression, mais qui et donc tu vas nous emmener justement sur le terrain à propos de ce très joli projet donc de science citoyenne d'études de la qualité je fais attention, mais non, c'est ça, je mélange entre la liaison, etc., d'études de la qualité des sols chez les jardiniers amateurs de Mours-Saint-Eusèbe. La clé du sol. Joli, bravo.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet exactement, Manon ?
Alors, c'est un projet comme c'est proposé par La Clé à Mours-Saint-Eusèbe. Donc, c'est un projet en collaboration entre la Fondation Rovaltin et La Clé à Mours-Saint-Eusèbe, c'est-à-dire l'association citoyenne de liaison et d'études.
Oui, tu fais bien de le préciser, effectivement.
Ouais, parce qu'on est vraiment
les deux
structures en train de travailler dessus, mm-hmm. ensemble, main dans la main, si je puis dire. Et du coup, c'est eux qui ont fait la démarche un peu d'aller vers nous et de nous dire on aimerait bien faire un projet un peu citoyen. Et on est intéressé aussi par les questions environnementales, climatiques. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous proposer ? Alors ça, c'était il y a longtemps. Du coup, c'est plutôt Delphine qui connaît les étapes. Mais actuellement, en fait, le but, c'est d'amener les jardiniers amateurs de Mours-Saint-Eusèbe, tous les habitants de Mours-Saint-Eusèbe. Mm-hmm. Après, on peut se rassembler aussi par jardin. Enfin, le but, c'est d'avoir une démarche d'interrogation par rapport à ces jardins et par rapport à la qualité des sols, parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, de pollution, tout ça, mais ça reste un peu global comme idée. Comment on peut l'amener en fait à notre environnement direct et comment le faire que ça ne reste pas seulement un peu un concept, une idée, et comment on va dans nos jardins, on creuse et on regarde et qu'est-ce qu'on peut en déduire, est-ce qu'on peut voir des changements, est-ce qu'on peut se dire il y a un problème, c'est bizarre, je croyais qu'il y a quelques années, il y avait plus d'animaux, il y avait plus de vers de terre. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Est-ce que je pourrais essayer de quantifier ce truc ? Est-ce que je pourrais aussi découvrir des nouvelles choses, en fait ? Par exemple, la structure, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait. Comme la structure, la compaction du sol. Enfin, il y a plein de critères différents. Il suffit juste d'ouvrir les yeux sur chacun. Et, du coup, on va faire des... Alors, on va proposer aux participants motivés d'aller ensemble dans le jardin et de regarder ensemble. Et il va y avoir aussi des prélèvements. On va la reprendre à prélever et à envoyer ces échantillons à des structures spécialisées comme l'INRA de Versailles et le l'IRSTEA aussi. Donc,
L'IRSTEA, c'est...
Alors maintenant, c'est l'INRAE.
Ah bon.
Oui, parce que l'IRSTEA et l'INRA ont fusionné au 1er janvier.
D'accord.
Donc c'est l'INRAE, donc c'est l'Institut National de Recherche en Agronomie et en Environnement.
D'accord, très bien.
Voilà, ils ont beaucoup de machines, ils ont de quoi faire des études de façon assez poussée, ce qu'ils utilisent pour leur recherche. Et ils vont pouvoir nous proposer, dans le cadre de ce programme, d'étudier la quantité de micro-organismes dans le sol, la quantité de carbone. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, mais qu'on ne peut pas voir, en fait. Parce que le sol, c'est quand même l'interface entre l'atmosphère et ce qui est le plus profond. Donc, c'est là où on peut stocker du carbone. Donc, quand on parle de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre, on se dit, mais en fait, pourquoi on ne pourrait pas essayer de restocker le carbone un peu dans les sols ? Qu'est-ce qui nous en empêche ou comment on pourrait le faire ? Et d'ailleurs, quel est le stock de carbone dans mon sol actuellement ?
Qu'est-ce que ça génère du coup aussi peut-être en différence sur les plantations, sur la vie, sur le vivant
dans
le sol ?
Voilà, alors ça, c'est plus des observations qu'ils vont faire eux-mêmes en fait, parce qu'ils ont sûrement un potager ou des plantations depuis quelques années et ça va être leur savoir. Et c'est aussi un des points très importants de la clé du sol. C'est qu'il n'y a pas un groupe d'experts qui va venir leur faire des analyses et tout.
Si, mais après.
Elle ne va pas venir leur faire des analyses.
C'est eux qui vont démarrer.
En fait, tout le monde est égal dans cette démarche. C'est-à-dire que les scientifiques, ils ont leurs connaissances scientifiques, mais les habitants, ils ont aussi leurs connaissances qui sont aussi importantes. Et, Et c'est le principe d'une démarche citoyenne, c'est tout le monde a ses connaissances et elles sont autant valorisées à leur juste valeur. Et c'est quelque chose de très intéressant, très important, et ça va permettre de faire une joyeuse émulation et de créer un nouveau type de connaissances. Par rapport à ça.
Aussi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment le côté participatif, c'est-à-dire que nous, on se permet de proposer justement aux jardiniers différents types d'analyses, différents types de formations, l'analyse des polluants, l'analyse de la biodiversité, l'analyse vraiment de la qualité du sol en termes de granulosité. Mmh. Et ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de voir ce qui les intéresse eux et que eux, ils choisissent ce qui semble plus pertinent. Ou peut-être
quel type d'éléments ils ont de quel type d'éléments ils ont
ils
besoin.
Ont besoin, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est une partie importante du début du projet.
Alors, c'est vrai que les sols, on en parle souvent sur Radio BLV parce qu'on a, on a une émission qui s'appelle Carnet de Jardin, qui est une émission mensuelle, et avec David Galès des jardins du Tétragone à Beaumont, et qui travaille en agroécologie. Mmh. Et en agroécologie, le sol a toute son importance pour bien d'autres, mais alors d'autant plus. Et c'est vrai qu'il parle souvent du sol et de soigner nos sols avant même de vouloir faire quoi que ce soit. Donc on se retrouve. Est-ce que vous, par rapport à la demande initiale ou les gens que tu as commencé à rencontrer, Manon, toi tu as commencé déjà à rencontrer des jardiniers et jardinières amateurs et amatrices.
On a fait effectivement une première rencontre, mais en comité un peu réduit, parce que la réunion de lancement officielle se fait demain, où on essaie de rassembler un maximum de personnes et vraiment on va bien expliquer en profondeur le projet. Mais on a pu rencontrer quelques personnes un peu via le bouche à oreille. Et oui.
Non, je disais, est-ce que eux, effectivement, ont d'ores et déjà des demandes particulières? Est-ce que l'intérêt, outre la curiosité, une curiosité naturelle, y a une vraie demande parce qu'il y a déjà des vrais questionnements?
Je pense que oui. Après, comme c'était plutôt une démarche où c'est moi qui leur ai présenté un projet, ils ont eu beaucoup de questions à la fin par rapport à comment on regardait ça, mais pourquoi on le faisait, on se basait sur quoi, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion aussi, parce que c'est très bien d'avoir une démarche scientifique, etc., mais résultat global à la fin. Du coup, il faut faire attention un peu aux attentes qu'on peut avoir, parce que ce n'est pas à la suite de ça que on va leur dire « Alors, ici, vous pourrez planter des carottes, et ici, vous pourrez planter des choux. » Ça, c'est pas trop l'idée, mais c'est plutôt avoir une bonne vision de chaque sol, avec les pratiques de chacun, et à la fin d'élaborer tous ensemble une charte où on dit « Ah, mais tiens, mais qu'est-ce qu'au final, si on devait rassembler les pratiques les plus vertueuses, celles qui aident le sol à rester en bonne santé,
c'est ça, oui.
On va regarder nos résultats et on va faire vraiment une démarche scientifique où on va dire « Ah, tiens, ça, cette pratique-là, ça fait une différence, et cette pratique-là, elles font une différence. » Comment on pourrait faire pour la mettre en place dans les années à venir auprès d'un maximum de personnes.
Et de façon quasi systématique, en tous les cas.
Qui ne soit pas quelque chose de très lourd. On ne leur demande pas de passer. S'ils ne passaient pas 10 heures dans leur jardin avant, ils ne vont pas passer 10 heures
de toute façon.
À partir de maintenant. Mais des petits gestes, parfois, ou juste d'arrêter certains gestes. Je ne sais pas, par rapport parfois à certains polluants.
Oui, certains gestes. Il y a aussi mettre en place peut-être certains types de cultures où il y avait des personnes qui avaient aussi des questions sur j'ai semé telle ou telle chose et finalement ça pousse pas très bien. Est-ce qu'on peut avoir aussi un retour scientifique sur ça? Savoir pour quelles raisons, en fonction du sol par exemple. On a aussi dit qu'on ferait quand même un retour particulier pour les jardiniers en termes d'agronomie, c'est-à-dire vraiment un bilan sur leur sol. Et puis aussi, je pense que ce qui est quand même intéressant, c'est d'apprendre aux gens. Donc même si les personnes n'ont pas de jardin, il faut qu'elles viennent parce que les formations se feront en groupe dans les jardins. Donc ça, c'est important. Même si simplement ça vous intéresse, ce projet, il ne faut pas hésiter à venir et à vous inscrire parce que ça, c'est important. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir ensuite transposer parce qu'ensuite, on pourra analyser la qualité du sol, pas forcément que dans son jardin, mais
bien sûr.
Partout.
Souvent, il suffit d'observer, en fait. C'est pas ces analyses qui vont révolutionner, en fait, la façon de voir le jardin. C'est juste, comme je disais précédemment, ouvrir les yeux et savoir quelques techniques parfois toutes simples, à partir d'un couteau ou à partir d'un, d'un verre de moutarde pour recuire les vers de terre.
Oui, on est vraiment sur de la formation, sur un projet qui vous, dans lequel vous proposez des formations à, voilà, à ces jardiniers et jardinières amateurs, ou pas, en tous les cas aux citoyens, pour aller, vous allez les équiper en outils, quoi, en outils intellectuels, pas, mais quoi qu'un verre à moutarde, bon, voilà, après chacun pourra le trouver. Mais il s'agit vraiment de transmettre, de donner de la formation et de l'information pour que les gens puissent être eux-mêmes l'expert, entre guillemets, en tous les cas.
Acteur voilà, dans leur réflexion et acteur dans leur démarche.
Oui, parce que l'idée, c'est que nous aussi, on apprenne finalement. Parce que justement, au contact des jardiniers, il y en a qui sont des jardiniers très complets. Hein, et donc, nous aussi, on apprend finalement et on a quand même un échange. Et ça, pour nous, c'est aussi important voilà, de savoir ce qui intéresse les gens.
Une remontée d'informations aussi.
Auprès du comité scientifique aussi, parce qu'il y en a un, voire plusieurs, qui vont se déplacer lors des formations ou lors de la journée de restitution à la fin et qui sont intéressés, vraiment intéressés par cet échange et ce qu'ils peuvent aussi apprendre, enfin ce qu'ils vont donner et ce qu'ils vont apprendre. C'est vraiment très... c'est un véritable échange, quoi. C'est pas unilatéral.
Alors, ça se passe sur Mont-Sainte-Eusèbe. Pourquoi Mont-Sainte-Eusèbe ? Parce que la clé voilà, le fondateur de la clé est, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, Mourcien.
Mourçois.
Voilà, Mourçois. Je crois que c'est lui qui est venu il y a 2 ans, parce que pour monter ce type de projet, c'est très long. On est sur du temps long. Alors aujourd'hui, où tout va extrêmement vite, voilà, trop vite parfois. Là, peut-être, c'est même un peu trop long du coup. Mais bon, là, ce sont nos instances qui nécessitent ça. Il a fallu trouver. C'est lui qui est venu voir la fondation, je crois.
Oui, Monsieur Gravier était très intéressé par les sujets portés par la fondation, hein, santé, environnement. Donc, ce sont des sujets qui l'intéressent énormément. Et il s'entendait très bien avec l'équipe en place à l'époque. Et donc, oui, c'est lui qui a émis l'idée de faire quelque chose en collaboration avec son association La Clé et les citoyens de Sainte-Eusèbe.
Donc, on vient, on est une association, on vient en disant, voilà, moi, j'ai envie de faire des choses. Mmh. Après, donc, on monte un projet entre la fondation et cette association. Il y a la création, la réflexion sur un projet. Ce n'est pas tout à fait anodin si c'est ce projet-là, parce que je crois qu'il y a une... C'est en parallèle, il y a un travail qui est mené pour le SCOT.
Oui, en fait, c'est un peu... alors, on l'a appelé la petite sœur de l'Observatoire des sols Rovalterra, qui est en fait un projet qui a démarré il y a un petit peu moins de 3 ans, qui est porté par le SCOT et coordonné par la Fondation, avec également des personnes du SCOT d'ailleurs, et qui est un projet d'observatoire en fait, des sols du Grand Rovaltin, qui est un projet multi-acteurs et qui mêle à la fois... Donc, en gros, l'idée, c'est d'aller observer la qualité des sols sur plusieurs parcelles, voilà, sur tout le territoire du Grand Rovaltin. Et l'idée, c'est aussi de mêler plusieurs acteurs, c'est-à-dire que là, on va récupérer des carottes chez des agriculteurs, dans des parcelles publiques. Et il y a aussi des lycéens qui sont impliqués, donc ils font les cartographies, ils vont eux-mêmes chercher les prélèvements, ils envoient les prélèvements pour l'analyse. Et puis ensuite, le comité scientifique donne ses résultats et analyse et aussi fait un retour vers les étudiants. Donc voilà, c'est un beau projet parce que ça mêle beaucoup d'acteurs et ça nous permet justement d'avoir ce côté très participatif et sociétal.
Donc ça a été, voilà, vous avez pris appui sur ce projet pour monter la petite sœur.
Voilà, la petite sœur dans les jardins, puisqu'il y a beaucoup de protocoles qui ont été réfléchis et mis en place pour cet observatoire, notamment de prélèvement du sol, d'analyse des sols, etc.
Et c'est là-dessus qu'on s'appuie. Voilà, pour ces connaissances et ces pratiques.
De façon adaptée quand même, parce qu'on n'est pas... Enfin, c'est pas la même échelle, c'est pas le même public, et c'est pas les mêmes intérêts aussi.
Non, le projet est complètement différent. Après, les protocoles d'observation des sols sont relativement similaires.
Mais alors, pourquoi 2 ans avant de pouvoir justement, proposer cette réunion de lancement?
Alors, en fait, il faut savoir que ce beau projet-là, La Clé du Sol, il est financé par la Fondation Daniel et Nina Carasso, qui en fait est hébergé par la Fondation de France. Et donc nous avions posé une demande de financement à la Fondation de France. Et comme c'était à la suite d'un autre projet, voilà, 2 ans ça a été le délai jusqu'à ce qu'on nous donne le feu vert et que nous obtenions cette demande de financement.
Donc ce sont les financements qui effectivement prennent beaucoup de temps.
Voilà, c'est-à-dire que de poser le projet, d'avoir un appel à projet qui correspond, de pouvoir y répondre, d'avoir la réponse et puis ensuite d'avoir la validation effectivement financière, ça prend du temps.
Quand on est citoyen lambda, souvent on se dit mais pourquoi les choses vont pas plus vite, notamment dans la recherche, parce que il y a des urgences. Alors, je parlerai pas de ce qui se passe actuellement, mais en tous les cas il y a des urgences à plein de niveaux et qu'on a l'impression que ça bataille, que ça bataille, que ça bataille, que ça rame. Et ben voilà, une des réponses, c'est qu'il faut rentrer dans un appel à projet correspondant. Il y a quand même un manque cruel de financement dans le milieu de la recherche, dans les milieux de la recherche au sens large.
Oui, tout à fait.
S'il y a des mécènes qui nous écoutent, on ne sait jamais. On peut toujours rêver. N'hésitez pas. C'est aussi un des pans de nos activités qui est importante. On va faire une deuxième respiration musicale. On va partir au Brésil avec Maciel Salou, Nasci M. Olinda. Je ne parle pas portugais dans la langue, mais voilà, vous avez une idée.
Da preguiça, nasci na praça praça da preguiça. Em Olinda, Marim dos Caetés, patrimônio da humanidade, das igrejas de pessoas fiéis, nasci. Olinda das igrejas, Olinda das ladeiras, Olinda do homem da meia-noite, da mulher do dia, vassourinha no largo do amparo, piaba de ouro. É por isso que eu sou natural de Olinda.
C'était... Pardon, voilà. Voilà, qui prouve qu'on est totalement en direct, si toutefois vous vous posiez la question, mais je sais que vous ne vous la posez pas vraiment. Vous êtes sur Radio BLV 93.6, c'est l'invité de 11h et quelques, aujourd'hui avec Delphine Delaunay, directrice générale de la Fondation Rovaltin, et Manon Bouvard, géologue chargée du projet La Clé du Sol. Alors, on a parlé de ces recherches, on a parlé de recherches fondamentales aussi. La Fondation Rovaltin, quand on parle fondation, quand on parle fondation science, on pense tout de suite à recherche. Mm-hmm. Est-ce que c'est bien le cas? Et quelles sont les missions de la Fondation Rovaltin?
Oui, tout à fait, c'est le cas. Donc la Fondation Rovaltin, en fait, on est une fondation qu'on appelle de coopération scientifique en santé environnement. Et donc notre mission première, c'est de soutenir la recherche en santé environnement. Donc ça, cette mission-là, en fait, on l'applique de plusieurs façons. La première façon, c'est effectivement, on finance des projets de recherche purs en santé environnement et notamment en écotoxicologie, c'est-à-dire l'étude des substances toxiques dans l'environnement, l'étude des polluants, des produits phytosanitaires. Donc ça, c'est vraiment effectivement notre cœur de métier. Après, on a plein d'autres façons de promouvoir la recherche en santé environnement. Donc on soutient des réseaux de recherche qui sont multithématiques et qui sont multi-organismes également, qui sont spécialisés, comme par exemple microplastiques et océans, ou alors écotoxicologie aquatique. On a un groupe de travail aussi à la Fondation, avec plus de 350 chercheurs sur l'écotoxicologie microbienne. Donc voilà, et là on les aide, on anime, on fait leur communication, on les aide dans l'organisation de leurs meetings. On a un grand meeting international là, qui viendra, qui va se passer sur Montpellier au mois d'octobre. Donc voilà, ça c'est une façon pour nous. On a aussi, on remet des prix lors des meetings scientifiques, notamment des prix jeunes chercheurs, des prix innovation, pour soutenir aussi la recherche de cette façon-là. Donc on a vraiment une grosse partie soutien de la recherche pure. Et puis à côté de ça, on porte des projets, des projets comme La Clé du Sol, des projets comme Rovalterra, qu'on aime beaucoup, qui sont là des projets multi-acteurs. Mmh. Et ça, on aime bien ça, on insiste beaucoup sur ce côté vraiment multi-acteurs. Et puis, donc on a aussi une partie qui est animation. Donc, on fait les fêtes de la science. On fait également des conférences grand public une fois tous les deux mois à la Tour Maubourg. Donc, ça, c'est financé par l'ARS. Et ça, ça a beaucoup des sujets très variés. Notamment, la dernière fois, on a eu le docteur Leroux sur durabilité des sociétés et biodiversité. C'était très intéressant. On a eu aussi la vie dans les milieux extrêmes avec le docteur Kish du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, il ne faut pas hésiter. Elles sont disponibles ainsi en webinar. C'est gratuit, l'entrée est libre.
Oui, elles sont annoncées. Généralement, elles sont annoncées sur l'antenne. Le pôle Écotox existe toujours ou est-ce qu'on l'appelle toujours comme ça ou pas?
Alors, est-ce qu'on l'appelle toujours comme ça? C'est une bonne question. En tout cas, je crois que ce n'est pas moi qui décide. Donc, ce sont les personnes qui décident. Et je crois que les personnes ont décidé qu'il s'appelle toujours le pôle Écotox.
Très bien.
Voilà.
Voilà. Parce que c'est vrai que la Fondation Rovaltin, ça a été, c'est aussi tout ça. Tu parlais de financement. D'où viennent vos subsides? Vous, vous êtes financé comment? Parce que financer, il faut qu'il y ait un moment où il y ait de l'argent qui rentre pour avant qu'il sorte. Comment ça fonctionne?
Alors, ça fonctionne par beaucoup d'entrées. Déjà, on a ce qu'on appelle une part consomptible, puisqu'on a été financé via un PIA au tout début de la création, donc en 2013 de la Fondation. Donc ça, c'est un financement public, en fait, un financement d'investissement d'avenir. Donc on a ce qu'on appelle cette part consomptible. Après, on a aussi des activités comme, par exemple, porter des projets. Ça nous permet de couvrir nos frais de fonctionnement. On fait aussi de la recherche de mécènes pour certains projets de recherche qui nous permet aussi de couvrir une partie de ces frais de fonctionnement. On fait des formations. Voilà, donc on a plusieurs petits ruisseaux comme ça de ressources pour la fondation.
On
accepte les donations.
Pardon, c'est bien de le dire.
Et aussi, nous avons lancé, je me permets, notre première campagne d'adhésion, parce que ça, c'est important. Ça nous motive aussi, nous, d'avoir beaucoup d'adhérents. Et puis, c'est aussi une ressource voilà, pour la fondation et ça nous permet d'être pérennes dans nos activités.
Alors, cette campagne d'adhésion, où est-ce qu'on peut retrouver d'ailleurs ? Parce que c'est vrai qu'on peut devenir adhérent de la fondation.
Tout à fait.
C'est une manière d'apporter sa pierre à l'édifice aussi. On parlait tout à l'heure de la recherche et on disait en off que les plus grandes avancées sont souvent faites un peu par hasard, des fois aussi, ou à la marge d'autres recherches, mais en tous les cas, elles viennent toujours en grande majorité, de la recherche fondamentale, et donc d'une recherche qui n'est pas nécessairement financée par le domaine privé, mais bien par le domaine public, et que c'est très important aussi de conserver ce domaine public, parce que c'est aussi une question de à qui appartient d'appartenance après aussi des découvertes.
Oui, tout à fait, je dirais que c'est peut-être plus ça le problème, parce qu'il y a quand même beaucoup de découvertes qui sont faites également importantes dans les laboratoires privés. Les chercheurs sont des deux côtés, sont
bien
dans
sûr.
Le public et dans le privé, ils sont tous extrêmement compétents. Je crois surtout que le souci de ce financement, c'est d'abord que les chercheurs ont du mal vraiment à procéder à leur recherche. Et puis, il y a aussi ce problème vraiment de financement de choses qui sont pratiques avec une temporalité très courte. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que parfois, la recherche, ça prend du temps. Et en termes de temporalité, on n'est pas sur les mêmes données. Ça veut dire que parfois, un projet qui vaut vraiment le coup, dans lequel on veut s'investir, c'est 5 ans, c'est 10 ans. Et il faut le savoir. Et aussi, il ne faut pas aller vers des financements de choses qui nous paraissent pertinentes. Parce que parfois, on découvre des choses complètement incroyables sur des modèles auxquels on n'aurait jamais pensé. La drosophile, par exemple, ça nous a donné quand même l'expression de tous les gènes qui sont à l'origine du développement. Et chez nous, chez le mammifère, chez les primates. Mmh. Et ça nous a permis de soigner énormément de maladies. Et ça, on n'y aurait pas pensé au départ quand les personnes sont arrivées en nous disant « on va travailler sur la drosophile ». Et personne n'aurait peut-être parié dessus. Donc, il faut juste se rappeler qu'il faut... plutôt aller vers un financement maximal, et même si ça ne nous paraît pas pratique là dans 3 mois, on peut
important.
En sortir des choses extrêmement importantes.
Cette campagne d'adhésion, on fait comment ? On vous trouve où ?
Alors, on nous trouve où ? À part sur le volet écotex, on nous trouve sur notre site web. Vous pouvez aller sur notre site web, vous avez le lien vers « Adhérer ». Et donc là, vous pouvez choisir votre type d'adhésion. Donc vous êtes tout à fait en sécurité parce qu'on passe par la plateforme LOSO. Mmh. Ou alors, si vous le souhaitez, vous regardez les types d'adhésion. On a différents types d'adhésion. Vous nous envoyez un chèque directement à la fondation. Mmh. Ça aussi, c'est possible.
Voilà, oui, parce qu'effectivement, on peut être particulier, mais on peut être entreprise, on peut être...
Tout à fait, chercheur.
Alors, je vous rappelle juste que pour Radio BLV, c'est la même chose. On est une association et on accueille avec plaisir de nouveaux et nouvelles adhérents.
C'était le moment pub.
Voilà. Et les entreprises sont elles aussi les bienvenues, bien évidemment, pour soutenir une certaine forme de médias locales. Allez, trêve de plaisanterie. Il est midi, malheureusement, on va être obligé de se quitter. Mais quand même, avant de se quitter, je redonne la parole à Manon. La réunion, à quelle heure, quand, demain, etc.
Alors, la réunion de lancement, c'est-à-dire celle où on va vraiment expliquer en détail ce qu'on va faire... en quoi ça consiste, comment, à quoi on s'intéresse, enfin, là où on peut avoir le maximum de détails, ça va être demain à Mour-Saint-Eusèbe à 18h à la Maison des Associations. Donc demain, vendredi 13.
C'est bien, c'est bien.
On contre le malheur, on espère. et voilà, et du coup, toute personne qui est intéressée peut venir et peut chercher à participer, que ce soit des habitants de Mours ou non.
On peut aussi sur un autre territoire et venir participer
oui,
aux
oui,
formations.
Oui, tout à fait, au contraire.
Toute personne intéressée est la bienvenue, justement.
Voilà, et puis peut-être que ce projet-là pourra essaimer par la suite.
Beaucoup de connaissances qui vont être faites, de toute façon, qui vont être produites. Et puis, c'est un bon moment à partager ensemble.
Voilà,
aussi,
c'est absolument, c'est une autre manière de s'impliquer, d'être acteur et actrice, comme tu disais tout à l'heure, de notre environnement au sens le plus large du terme. Merci infiniment à toutes les deux. On pourrait passer
merci
encore 2 heures,
l'invitation.
Donc c'est vraiment très frustrant, mais merci infiniment et longue vie à vos projets.
Merci.
On va continuer à faire des selfies dans le studio. Qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques.